Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon pour Le Monde Aujourd'hui, à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 4 avril 2023. L'ancien président Donald Trump est au tribunal à New York pour être formellement inculpé. La Finlande fait son entrée dans l'OTAN, la Russie promet des contre-mesures, estimant que c'est une atteinte à sa sécurité nationale. 6 personnes ont été arrêtées en Turquie après la mort suspecte d'une jeune Gabonaise. La presse sur la sellette au Burkina Faso, des journalistes sont accusés d'espionnage par des écrits sur les réseaux sociaux.
Ce qui change maintenant, c'est que ces activités-là sont faites au nom du soutien au régime et de la lutte antiterroriste.
Réaction dans la partie magazine de Médecins en sommet, analyste, l'ONU demande à la Tunisie de cesser les discours de haine contre les subsahariens. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal. Donald Trump est bien arrivé ce mardi après-midi dans un tribunal de Manhattan à New York pour une audience lors de laquelle l'ancien président américain devrait être formellement inculpé pour un paiement effectué par son ex-avocat Stormy Daniels, ancienne actrice de films pour adultes lors de la campagne électorale de 2016. C'est la première fois qu'un président américain en exercice ou non est visé par un acte d'inculpation au pénal. Donald Trump, 76 ans, candidat déclaré pour l'élection présidentielle de l'année prochaine et actuel favori dans la course à l'investiture du Parti républicain, a donc été inculpé la semaine dernière par un grand jury de Manhattan sans que soient précisés les chefs d'accusation le visant. Je vous propose tout de suite de retrouver à Manhattan notre envoyé spécial, Dili Diko. Bonsoir Dili Diko.
Bonsoir Jean-Roger.
L'ancien président Donald Trump a été inculpé en fin de semaine dernière par un grand jury dans une affaire d'achat de silence. Qu'est-ce qu'on sait au moment où Donald Trump va se présenter devant un juge?
Il est attendu que le président plaide non coupable et on attend également de voir la liste complète des crimes qui lui sont reprochés, outre les deux qu'on connaît pour l'instant, donc l'achat du silence de Stormy Daniels et la falsification de documents avec l'aide de son ancien avocat.
Alors, Donald Trump clame son innocence et a su être victime d'une chasse aux sorcières. Pouvez-vous nous situer sur sa ligne de défense? Que disent ses avocats?
Donald Trump parle effectivement d'une réelle vendetta contre lui et d'un acharnement contre sa personne. Et pour sa défense, il a choisi un avocat qui s'appelle Joe Tacopina. C'est un célèbre avocat de New York qui s'est fait connaître lors de plusieurs talk shows. Et donc Monsieur Tacopina, je vais citer les propos de Monsieur Tacopina qui dit « Un mensonge n'en est un que si vous avez d'abord prêté serment devant un juge de dire la vérité ». Donc voilà, là on peut voir un peu la ligne directrice de son avocat et la façon dont il compte défendre Donald Trump dans cette affaire de paiement à Stormy Daniels. Et voilà, donc, et on voit que le président avait avoué finalement avoir versé une somme de 130 000 à l'actrice de films pour adultes, mais que bon, selon la défense et la stratégie de défense de Monsieur Tacopina, le fait qu'il l'ait dit sans prêter serment n'a pas de valeur en fait.
Alors, la comparution de M. Trump suscite des craintes en matière de sécurité. Le maire de New York semble avoir pris des dispositions inédites. Pouvez-vous nous les décrire?
Donc, le maire de New York, Eric Adams, a fait savoir déjà qu'il n'allait tolérer aucun débordement. Il a aussi demandé hier soir et rappelé ce matin aux supporters de Trump il a demandé explicitement d'être en contrôle d'eux-mêmes. Et donc, il y a eu quelques petites altercations entre pro-Trump et anti-Trump, notamment dans le parc qui est situé devant les locaux du procureur de Manhattan. Les policiers sont mobilisés dans la zone avec la presse autour. Donc, il y a une très forte mobilisation policière dans cette zone spécifique de New York.
Voilà, c'était Dili Diko, envoyé spécial de VOA Afrique à New York. Un commandant du groupe État islamique a été tué ce lundi en Syrie lors d'un raid mené par l'armée américaine, a annoncé le commandement central américain. Khalid Ahmed al-Jabouri était jugé responsable de la planification d'attaques en Europe, selon le CENTCOM, qui supervise les opérations militaires des États-Unis au Proche-Orient, en Afrique et en Asie centrale et du Sud. Après trois décennies de non-alignement militaire, la Finlande a rejoint ce mardi l'OTAN, un tournant historique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les précisions de John Lindon.
C'est bien sûr un grand jour pour la Finlande. C'est aussi une bonne chose pour l'OTAN, a souligné le ministre finlandais de la Défense. Mais selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, il s'agit surtout d'une nouvelle aggravation de la situation. L'élargissement de l'OTAN est une atteinte à notre sécurité et à nos intérêts nationaux, a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie se voyait contrainte de prendre des contre-mesures. La Finlande est maintenant en sécurité, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. En adhérant à l'OTAN, la Finlande aura l'engagement de défense collective, car une attaque contre un membre sera considérée comme une attaque contre tous les membres. Les alliés de l'OTAN représentent 50% de la puissance militaire mondiale. Les documents d'adhésion de la Finlande à l'OTAN ont été remis au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, gardien du traité fondateur de l'Alliance Atlantique.
La Chine a mis en garde ce mardi Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants des États-Unis, contre la répétition des erreurs désastreuses du passé et la rencontre avec la présidente de Taïwan. Après un voyage en Amérique centrale, Tsai Ing-wen va effectuer un transit à Los Angeles sur le chemin de retour à Taipei et participe demain donc à une réunion organisée par le républicain Kevin McCarthy. La Chine considère Taïwan comme partie de son propre territoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
6 personnes ont été arrêtées en Turquie après la mort suspecte d'une étudiante gabonaise dans le nord du pays. Une autopsie avait attribué le décès de la jeune femme à une mort naturelle par noyade, malgré la mention de petites ecchymoses au niveau du cou et des reins. L'ambassade du Gabon à Ankara avait rejeté les conclusions des médecins légistes demandant une contre-expertise. 3 des 6 personnes interpellées lundi sont des ressortissants étrangers, a indiqué l'agence de presse turque DHA, sans préciser leur nationalité. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale lance un avertissement solennel aux autorités tunisiennes pour faire cesser les discours de haine, en particulier envers les ressortissants d'Afrique au sud du Sahara. Le point avec Nani Talani.
Le comité se dit alarmé par les propos tenus par le président tunisien Kais Saied fin février, alléguant que des migrants illégaux subsahariens s'inscrivaient dans un plan criminel visant à modifier la composition démographique de la Tunisie et étaient à l'origine de violences, de crimes et de pratiques inacceptables. Le comité se dit profondément préoccupé par une recrudescence des discours de haine raciale ou xénophobe en Tunisie contre les migrants subsahariens sur les réseaux sociaux et autres médias et de la part des personnalités privées et des partis politiques. Le comité est gravement préoccupé par des actes de violence, les agressions physiques des migrants, les expulsions de leurs domiciles et de nombreuses arrestations arbitraires menées par les forces de l'ordre. Le comité demande l'arrêt immédiat des détentions collectives, de libérer ceux qui sont détenus arbitrairement et permettre à ceux qui choisissent de demander l'asile de le faire.
Le comité international de la Croix-Rouge a annoncé ce mardi la libération de 19 militaires centrafricains pris en otage le 14 février par une alliance de groupes rebelles dans le nord de la Centrafrique. Ils avaient été pris en otage par les membres de la coalition des Patriotes pour le changement CPC après des combats violents qui avaient occasionné des pertes militaires selon le gouvernement. L'Union européenne et les États-Unis surveillent l'application de l'accord de paix ayant mis fin à 2 ans de guerre civile en Éthiopie et ne rétabliront que progressivement leurs relations avec Addis Abeba, a indiqué aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le processus de paix en Éthiopie est l'une des rares bonnes nouvelles que nous ayons dans le monde, a reconnu M. Borrell, soulignant que l'Union européenne et les États-Unis continueraient à travailler main dans la main pour le conflit au Tigré. Le Zimbabwe a promis aujourd'hui l'ouverture d'une enquête après des accusations de fraude et corruption dans un documentaire de la chaîne Qatari, Al Jazeera, dont la diffusion a provoqué des remous dans le pays. Dans ce documentaire intitulé « La mafia de l'or », Al Jazeera accuse des membres du gouvernement d'être impliqués dans un vaste système de blanchiment, des transferts de fonds liés aux exportations d'or. Des images montrent des négociants en or agréés par les autorités zimbabwéennes proposés à des journalistes infiltrés de vendre de l'or à l'étranger. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nani Talani.
Yaoundé va recevoir ce soir 13 millions de dollars du FMI qui vient de finir les troisièmes revues des accords triennaux au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Par ailleurs, le FMI souligne que la croissance du PIB du Cameroun est projetée à 4,3% en 2023 et devrait atteindre en moyenne 4,5% à moyen terme. La Banque africaine de développement a signé un accord de don de 362 000 euros avec le fonds fiduciaire du bassin de Adidja pour soutenir le développement des ressources en eau dans le nord du Nigeria. Ce don servira aussi à financer un mécanisme de redressement des doléances des parties prenantes impliquant les communautés riveraines et la commission du bassin du lac Tchad qui comprend le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Pour terminer, les arriérés de paiement intérieur de l'Eswatini ont de nouveau augmenté et les réserves de change de la Banque centrale sont inférieures à 3 mois de couverture des importations, indique le FMI. Les amortisseurs budgétaires et externes ont diminué, les sommes babanées moins préparées à contrer de nouveaux chocs, avertit le FMI. Il encourage de faciliter l'investissement privé et renforcer la compétitivité pour relancer la croissance et réduire le chômage.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
La CAF a conclu ses visites d'inspection dans les pays candidats à l'accueil de la CAN 2025.
Oui, après les étapes de l'Algérie, du Maroc, de la Zambie et du Nigeria, la commission a fini hier sa tournée par le Bénin pour évaluer ses différentes infrastructures. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Élisée Moukpatine.
La délégation composée du cabinet Roland Berger et Timou Mafouz du département des compétitions de la CAF en quittant le Nigeria a démarré sa visite par Porto-Novo avant de se rendre à Cotonou. Deux villes choisies par le Bénin et inscrites dans le dossier de candidature pour la CAN de 2025. Les stades Charles de Gaulle de Porto-Novo et Mathieu Kérékou de Cotonou, qui a d'ailleurs abrité la finale de la Coupe CAF en 2021, ont été inspectés sous le regard du deuxième vice-président de la Fédération béninoise de football, Magloire Oké.
C'est une mission d'inspection pour voir si nos infrastructures sont aux normes pour pouvoir accueillir la co-organisation de la CAN avec le Nigeria. C'est toujours comme ça, c'est les professionnels, ils sont en train de regarder, de voir les failles qu'il y a au niveau de nos infrastructures pour que nous puissions les corriger en collaboration avec la Fédération ministère des Sports et le gouvernement pour pouvoir corriger tout ce qu'il y a comme imperfection et être apte pour cette co-organisation de la CAN.
La délégation n'a pas pu visiter les infrastructures hôtelières avant de quitter le pays. Précisons que le Bénin, avec 2 stades et 6 pour le Nigeria, ont déposé un dossier conjoint de candidature pour co-organiser la CAN de 2025 retirée à la Guinée. Ils sont en lice avec le Maroc, la Zambie et l'Algérie. Boycon, Élisée Moukpatine, VOA Afrique.
Le départ de Lionel Messi du PSG est désormais beaucoup plus probable.
C'est ce qu'affirme une source proche du club. Le contrat de Lionel Messi arrive à terme en juin prochain. Aucun accord n'a été signé. La dynamique a complètement changé avec le PSG, qui pousse moins pour renouveler, poursuit cette source. Messi, qui aura 36 ans en juin, a rejoint le Paris Saint-Germain à l'été 2021. L'attitude des supporters, dont certains ont sifflé la star argentine dimanche lors du match perdu à domicile contre Lyon, a complètement changé la donne, selon cette source. Depuis son titre mondial, l'attaquant argentin est moins brillant avec le PSG. En 67 matchs sous le maillot parisien, la Pulga a marqué 29 buts et offert 32 passes décisives.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération ont été expulsées du Burkina Faso. Leur rédaction dénonce une mesure inacceptable et arbitraire. Sophie Douce du journal Le Monde et Agnès Fèvre de Libération avaient été convoquées vendredi dernier à la Sûreté nationale du Burkina et il a été ensuite donné l'ordre de quitter le pays dans les 24 heures. Dans cette affaire, deux autres journalistes burkinabés, Yacine Sanou et Lamine Traoré, ont été accusés d'espionnage par des écrits sur les réseaux sociaux. Pour comprendre davantage, Yacouba Ouédraogo a joint à Paris l'analyste Maxence Sommet.
Vous savez, les campagnes de déstabilisation à travers les réseaux sociaux ont commencé sous le MPP. Mais à ce moment-là, c'était dirigé contre le régime. Et donc, les Burkinabés, qui sont d'une nature contestataire, n'ont pas vu le danger. Ce qui change maintenant, c'est que ces activités-là sont faites au nom du soutien au régime et de la lutte antiterroriste. Et maintenant, donc, sont du côté du pouvoir, mais contre tous ceux qui critiquent le pouvoir. Et c'est là où les Burkinabés se rendent compte de ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre pendant 5 ans, que les réseaux sociaux sont devenus un instrument de déstabilisation, de cyberharcèlement qui peut être très, très, très dangereux pour la paix sociale.
On a vu le cas récent des journalistes Lamine Traoré et Yacine Sanou indexés dans un écrit qui proviendrait d'un certain site. Quelle est la part des fake news dans tout cela?
Lorsque Yacine Sanou a été jeté en pâture, alors qu'il était encore à Omega, je ne sais plus, en 2019, pour sa la couverture qu'il avait faite des massacres de Yegou. Ça, ce n'était pas des fake news, c'était des faits. Il a fait un travail, le régime a organisé une campagne contre lui et contre son organe de presse Omega, alors que le propriétaire de Omega était même le ministre des Affaires étrangères du même gouvernement. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, cette fois-ci, c'est que le document, donc, il y avait deux formes. Il y avait un faux journal télé qui était fait par un site et le même site a fait aussi un visuel pour WhatsApp avec le texte. Et la vidéo dont tout est parti, c'est ça qui est drôle, toute cette affaire est partie de la chaîne Telegram de Ibrahim Maïga, qui est un activiste qui vit aux États-Unis. C'est lui qui a publié cette vidéo-là avec comme commentaire « Les terroristes sont en train de lire l'heure à Waïbouya ». Et c'est de là que ça a commencé à circuler sur WhatsApp et que c'est arrivé aux mains des journalistes qui m'ont contacté pour me demander l'authenticité de la vidéo. Moi, j'ai utilisé mes outils et je leur ai dit, écoutez, la vidéo n'a pas fait l'objet d'un montage, donc c'est du rush, donc elle est authentique. Vu le pays, ça a l'air d'être au Sahel, mais je ne saurais vous dire ni quand ni où. Donc ils ont continué leur travail.
Dans ce climat, pareil au Burkina Faso, que faire pour éviter de lancer des honnêtes citoyens, comme on l'a vu le cas de Lamine Traoré et Yacine Sanou, à la pâture?
Ce que la justice peut le faire, mais est-ce que nous avons encore une justice indépendante? Donc en réalité, seul l'exécutif peut le faire. Personne d'autre n'a les moyens d'un État pour remettre de l'ordre dans un pays. Personne d'autre.
C'était l'analyste Maxence Sommet à Paris.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Togo, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, a connu une hausse de 50% depuis le 1er janvier 2023. Il est passé de 35 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. 3 mois plus tard, les entreprises peinent à appliquer la mesure. Des rencontres tripartites, gouvernement, patron d'entreprise et syndicats des travailleurs sont organisés pour mener des réflexions sur le sujet. De Lomé, la correspondance de Kossi Wosou.
À l'annonce de l'augmentation du SMIG applicable au secteur privé au Togo, les travailleurs avaient poussé un ouf de soulagement. Les organisations de la société civile, à l'exemple de l'association Veille Citoyenne, qui ne cessait d'appeler à la revalorisation du SMIG, avaient salué ce qu'elles considéraient comme une avancée. Pilena Moussama, président de Veille Citoyenne.
De 2012 à 2022, c'était le calvaire. Vous savez que le coût de la vie a a considérablement augmenté. Donc c'était intenable et ça enfonçait les travailleurs de plus en plus dans la précarité. Donc cette augmentation va permettre aux travailleurs de souffler.
Seulement voilà, 3 mois après cette annonce, beaucoup d'employeurs traînent les pas pour se conformer à la décision. Ils évoquent la conjoncture économique du pays. Pour Laurent Tamignon, le président du patronat togolais, les employeurs se trouvent dans un dilemme.
Il est clair, les petites et moyennes entreprises ont des difficultés. Déjà, d'ailleurs, certains n'arrivent pas à assumer les 35 000 qui étaient là. Et aujourd'hui, on est à 52 000. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut qu'ils puissent, s'ils ont 3 employés, abandonner 2 et garder 1 pour pouvoir payer?
Le gouvernement togolais semble prendre la mesure de la situation. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social.
Le SMIG est une disposition obligatoire. En même temps, il faut être soucieux et attentif par rapport aux autres enjeux et intérêts que nous poursuivons en commun. Et donc, il faut s'assurer que la mise en œuvre du SMIG n'engendre pas des effets pervers ou indésirables. Nous ne souhaitons pas voir des unités économiques se fermer, des activités cesser en raison de la situation que les entreprises peuvent éprouver par suite de la revalorisation du SMIG.
Antoine Gandjou, secrétaire général de la Fédération des syndicats du secteur de la construction, propose
que le gouvernement prenne des mesures pour accompagner ces petites et moyennes entreprises de sous-traitance dans différents secteurs pendant au moins minimum 1 an. Sinon, il faut reconnaître que l'accord serait difficile à appliquer et ça va créer encore un système de conflit entre les travailleurs, les organisations syndicales et leurs différentes entreprises.
Depuis le début du mois de mars, des rencontres avec les patrons des entreprises du pays sont initiées pour des propositions idoines afin de trouver des solutions à la situation. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Congo, le gouvernement prône une politique de préservation de la nature en interdisant à la population de chasser certaines espèces animales ou de pêcher dans les aires protégées. Une politique qui a du mal à passer auprès d'une population qui n'a pour seule ressource que la forêt. Le reportage sur place d'Arsène Séverin.
Ici, dans la Songa, à près de 800 km au nord de Brazzaville, la population a sa conception de la préservation de la biodiversité. Elle a ses propres règles et reste convaincue que la viande de brousse ne s'épuisera point.
Ça ne peut pas diminuer parce que la viande, ici à la Sanga, la viande, ça c'est impossible. Nos grands-pères, nos oncles ont travaillé ici depuis quand j'étais encore petit. Bon, maintenant, la vie n'est pas finie.
C'est une analyse. L'étoile a une forêt dense. Et que des gabois.
Nous avons encore assez de viande de brousse. Notre forêt est très dense. Elle part d'ici jusqu'au Gabon. Il y a du gibier partout et les générations futures vont se régaler à leur tour.
Les autorités locales n'y vont pas d'une main de fer quand il s'agit de la viande de chasse à consommer sur place. Même les espèces protégées passent souvent dans la casserole. Joseph Moketo est le secrétaire général de la mairie de Wesso, la capitale de la Sanga.
Ce qui est interdit, où certaines espèces ne peuvent pas aller vers Brazzaville. Mais vous pouvez en consommer sur place, tel que vous avez cette espèce protégée et de son millier.
Le gouvernement encourage la population à changer de culture en pratiquant l'élevage et l'agriculture. Mais les habitudes sont dures. Et ici, à Kabo, à plus d'une centaine de kilomètres de Wesso, en pleine forêt, c'est un citoyen d'un pays ouest-africain qui donne la leçon.
Ici, les gens consomment les viandes de brousse parce que les moutons, nous on lève les moutons. Si on trouve aussi certaines personnes qui ont aussi dans le désert, on peut aussi vraiment les vendre. C'est une façon de, si on a aussi l'habitude de souvent de faire des contacts avec les gens qui n'ont jamais fait d'élevage et les motiver et de montrer comment il faut faire l'élevage.
Le Congo n'est pas seul dans son combat pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Les États-Unis apportent une assistance significative et souhaitent que la population environnante soit prise en compte, tel que le souligne ici Eugene Young, l'ambassadeur des États-Unis.
à peu près de 100 millions de dollars. Ce n'est pas assez, je peux dire. Et nous voulons continuer et augmenter notre aide pour ces zones et pour ces groupes là-bas. Promouvoir l'élevage au lieu de chasse des animaux dans les forêts. Il y a des programmes qui soutiennent la création de petites et moyennes entreprises.
Entre le gouvernement qui promet la politique de la préservation de la biodiversité et la population qui vit de la chasse et les produits de la forêt, le combat est loin d'être gagné. Arsène Séverin, du retour de la Sangha, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Pour parvenir à une société plus équilibrée et éradiquer les violences basées sur le genre, certaines ONG se spécialisent dans le plaidoyer de la masculinité positive. Pour une explication, Nathalie Barge s'est entretenue avec Passy Moubalama, directrice de l'organisation Aide Profène, basée à Goma, dans le Nord Kivu, lors d'un passage à Washington.
Masculinité positive, c'est une perspective par laquelle l'engagement des hommes, des garçons, a été utilisé pour soutenir l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Donc à travers la masculinité positive, on veut emmener les hommes à lutter contre les violences basées sur le genre. La masculinité positive aussi, c'est le fait que certains hommes essayent vraiment de faire participer leurs femmes dans la gestion du ménage, dans la prise des décisions. C'est vraiment ce partenariat égal où l'homme et la femme collaborent, discutent pour mieux gérer leur famille.
On sait que beaucoup d'hommes sont tout de même récalcitrants et veulent garder leurs privilèges, hein, en quelque sorte de contrôle sur la femme. Est-ce qu'ils parviennent à un moment donné tout de même à évoluer ces hommes-là, ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce qu'on s'en tient seulement à éduquer les nouvelles générations et cela on les laisse de côté?
C'est vrai que les anciennes générations ont encore du mal à comprendre lorsqu'on aborde les questions par rapport à la masculinité positive, parce qu'ils se disent on a été éduqués d'une certaine façon. Il y a toujours les coutumes et les traditions qui pèsent encore énormément. Malheureusement, c'est des coutumes et des traditions que j'appelle des traditions rétrogrades qui discriminent et marginalisent les femmes. Donc la promotion de la masculinité doit se faire à tous les niveaux. Bien sûr, on doit beaucoup se focaliser plus sur les jeunes générations parce qu'on pense qu'avec eux, le changement va être plus facile. Mais on ne va pas oublier les seniors parce que les femmes vivent avec eux et on ne peut pas tolérer que des femmes continuent à être battues, des femmes continuent à être violées, parfois par leur mari, et ça doit changer.
Est-ce que certains hommes font preuve de leadership sur cette question afin de montrer l'exemple à la population masculine?
Aide Profène travaille en RDC avec différents partenaires sur un programme de promotion de la masculinité positive où on essaye de renforcer les mécanismes communautaires dans le cadre de la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. On a mis en place des groupes d'hommes qu'on appelle des hommes ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs de la masculinité positive qui ont été formés d'abord sur les questions du genre. Donc une fois qu'ils comprennent pourquoi il est important que les droits des femmes soient respectés, ils sont lancés dans les communautés pour sensibiliser leurs pairs sur la masculinité positive. C'est tout un processus et on a des groupes d'hommes engagés pour la masculinité positive dans différentes localités et ça marche.
Passy Moubalama, directrice de l'organisation congolaise Aide Profène.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. La comparution de Donald Trump devant la justice pénale, inculpé à New York en lien avec un paiement à une actrice de film pornographique. L'ancien président américain, candidat à l'investiture républicaine dans la course à la Maison Blanche, crie à la chasse aux sorcières. Ses rivaux démocrates, eux, affirment que personne n'est au-dessus des lois. Ce fait inédit dans toute l'histoire des États-Unis va-t-il davantage diviser un pays déjà fracturé à moins de 2 ans de la présidentielle? Quels enseignements tirés des pays où d'anciens dirigeants ont été poursuivis? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.